Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Quel que soit le résultat du second tour de la primaire de gauche, Benoît Hamon aura au moins réussi à imposer son thème de prédilection dans le débat, la création d'un revenu universel comme réponse à la raréfaction du travail. De l'avis quasi général, voilà bien une des rares, si ce n'est la seule idée neuve de cette campagne, même si beaucoup en contestent la pertinence. Une contestation qui n'est pas seulement de principe, elle vise aussi le diagnostic de départ sur lequel se fonde ce projet de création d'un tel revenu. À savoir d'une part l'automatisation et la robotisation qui détruisent énormément d'emplois et d'autre part les gains de productivité qui ne permettraient plus de compenser ces pertes par la création de nouveaux métiers. Or, cette idée d'une irrémédiable raréfaction du travail ne fait pas consensus. Plusieurs études récentes menées en France, notamment celle du Conseil d'orientation pour l'emploi, relativisent l'impact de la révolution numérique sur le volume de travail disponible. 10% des emplois seraient menacés de disparaître. Alors bien sûr, ça n'est pas négligeable, mais c'est bien moins que ce qu'anticipent les scénarios les plus pessimistes qui justifieraient de revoir entièrement notre rapport au travail. Alors, travail, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Marie-Claire Carrerger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez le Conseil d'orientation pour l'emploi et ce depuis 2007. Le COE qui a donc publié ce mois-ci un rapport intitulé « Automatisation, numérisation et emploi ». Vous avez été auparavant, donc avant 2007 et pendant 5 ans, conseillère sociale du président de la République, Jacques Chirac. Pour discuter avec vous, Dominique Méda, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, professeur à Paris Dauphine, vous y êtes titulaire de la chaire Écologie, Travail et Emploi. Vous avez publié l'an dernier avec Pierre Larouturou aux éditions de l'Atelier « Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail ». On vous doit également, c'était un peu plus récent, c'était au mois de décembre dernier pour l'Organisation internationale du travail, un rapport intitulé « L'avenir du travail, sens et valeur ». Du travail en Europe. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Il s'agit de Raphaël Yogier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à Sciences Po à Aix-en-Provence et vous avez publié en novembre dernier aux éditions Les Liens qui Libèrent, Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel. Alors, nous allons évoquer ce soir cette question de la raréfaction annoncée du travail, à la fois en termes quantitatifs et puis aussi sur des questions qualitatives, et voir en quoi les diagnostics qu'on peut émettre sont susceptibles de modifier les orientations des politiques publiques. Mais je voudrais d'abord avoir un premier point de vue général de vous trois. Est-ce qu'on peut dire que, alors quel que soit finalement le diagnostic qui est fait, mais qu'on a la certitude que et l'automatisation et la numérisation ont un impact sur le volume d'emplois disponibles. Et est-ce que, dans la même question, cet impact-là va encore se faire sentir dans les années à venir? Marie-Claire Carrerger.
Alors, dans un univers de profonde incertitude, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Dans ce débat, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de certitudes sur beaucoup de choses. Moi, en tant que spécialiste de l'emploi, il me semble que j'en ai moins. Mais... Ce dont je suis sûre quand même, c'est que le progrès technologique, et ça s'est vérifié depuis que l'homme est l'homme, le progrès technologique a un impact sur le volume, sur la structure et sur la localisation de l'emploi. Alors la question qui est posée aujourd'hui, et le débat revient avec force, parce que on a une vague d'innovation technologique qui défie l'imagination par son ampleur. On ne sait pas grand-chose sur la vitesse avec laquelle elle va se diffuser. Les progrès technologiques sont pas une donnée comme ça, hein, c'est pas la foudre qui s'abat sur le monde. En fait, la vitesse de diffusion du progrès technologique, elle dépend de plein de choses, de la rentabilité économique, de la substitution par exemple, de choix sociaux, de choix éthiques, des préférences du consommateur. Donc il y a plein de facteurs qui sont susceptibles de modifier le scénario.
En tout cas, ce que je retiens de votre premier constat, c'est que là, et quand il y a en tout cas progrès technologique, il y a forcément impact. Je poursuis juste mon tour de table, ensuite je reviens vers vous, Marie-Claire Carrerger. Dominique Méda, est-ce que vous partagez ce premier diagnostic, disons ?
Tout à fait, je pense que là c'est très sage de dire ça. Oui, il y a un impact, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue pour dire qu'on ne sait pas très bien le mesurer. Simplement, ce qu'on a vu, c'est une sorte de folie qui s'est emparée du monde au début des années 2010. Il y a eu deux, trois études et livres, un ouvrage, notamment un ouvrage de deux auteurs du MIT, Race Against Machine, la course contre la machine, qui a déjà fait laissé une première angoisse, une trace d'angoisse dans le monde. Et puis il y a eu la fameuse étude de Frey et Osborne en 2013.
Chercheur à Oxford.
Oxford, qu'on allait supprimer, environ 50% des emplois. Et cette étude a été dupliquée dans le monde entier, énormément commentée. Je trouve que les gens s'en sont saisis vraiment sans aucune précaution. Et là, on est en train doucement de revenir sur ce diagnostic. Et je crois que c'est très sage de regarder exactement ce qui se passe.
Alors on va voir justement dans un instant ce que valent les études qui ont suivi justement la publication de cette étude en 2013. Pour vous, Raphaël Liogier, est-ce que là aussi, vous êtes également d'accord pour dire qu'il y a forcément un impact et que c'est aussi ce que nous enseigne l'histoire de la technologie, donc qui est liée directement évidemment à l'histoire de l'homme, que d'avoir des conséquences fortes, sans dire lesquelles pour l'instant, en tout cas sur la question du travail et celle de l'emploi.
Alors, moi, je pense effectivement, comme les deux autres invités, qu'il faut être très prudent. D'autant plus que l'impact de la technologie et de ce qu'on appelle aujourd'hui les technosciences sur le travail a été un impact complexe aussi dans l'histoire. C'est-à-dire que ça a permis parfois, au contraire, de créer de l'emploi, de créer plus d'emplois, de faire varier, de délocaliser, de faire toute une série de choses. Néanmoins, moi, que je crois, en restant prudent, c'est que l'impact actuel de la technoscience nous oblige, au-delà de toutes les discussions qu'on pourra avoir sur la question de la quantité, parce qu'on discute tout le temps de la quantité, de combien il reste d'emplois, est-ce que ça va faire baisser, augmenter, etc. À mon sens, l'évolution actuelle des technosciences, qu'on appelle la numérisation, la robotisation, l'automatisation, tous ces concepts dont on reparlera peut-être, nous oblige, à mon sens, à repenser le concept même de ce qu'est l'emploi, de ce que c'est aujourd'hui de travailler. Voilà.
Alors même si vous allez davantage sur les questions de qualité que de quantité, vous y risquez quand même un petit peu, Raphaël Liogier, dans votre livre, et vous revenez sur ce phénomène, alors que connaissent bien les économistes, qui est celui de la destruction créatrice, Schumpeter, selon lequel, quand on détruit des emplois du fait des innovations technologiques, ils s'en créent d'autres, parce qu'il y a des gains de productivité. Les gains de productivité permettent de faire baisser les prix et de... je ne vais peut-être pas tout réexpliquer, créer de nouveaux besoins et donc créer de nouvelles activités. Vous dites, Raphaël Liogier, je voudrais vous entendre là-dessus avant de faire réagir et Marie-Claire Carrerger et Dominique Méda, que ce phénomène de destruction créatrice est pour le moins enrayé, je vous cite, puisqu'il semble même fonctionner en sens inverse. En effet, les emplois perdus ne se déversent plus dans les nouveaux secteurs ouverts par les techniques.
Oui, alors, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les emplois, entre guillemets, perdus ne laissent pas la place à de nouveaux types d'activités dans des domaines qui vont être variés. Ça veut dire que le rapport, alors là, du point de vue quantitatif, est défavorable à la quantité d'emplois créés. Mais en fait, ce que je critique, puisque tout à l'heure on va parler des études, c'est qu'on a soit des études qui fonctionnent plus par rapport à ce qu'on pourrait dire les professions. Alors on va dire il y a tel type de profession, puis on va avoir des listings, il y a une multitude d'études qui disent telle profession va disparaître, finalement elle disparaîtra pas, telle autre ne va pas disparaître parce que là c'est une profession d'aide à la personne, donc c'est plus empathique, il y a plus de subjectivité, telle autre ça demande plus d'intelligence, etc., etc. Moi je pense que le problème c'est de réfléchir en termes de profession, je pense qu'il faut réfléchir en termes de tâches. C'est-à-dire que quand on réfléchit en termes de tâches effectuées au sein d'une même profession, on se rend compte que quasiment toutes les professions sont touchées. Mais elles ne sont jamais touchées jusqu'à pratiquement l'entièreté de ce que représentait une profession donnée qui serait supprimée. Mais du coup, c'est le nombre d'heures nécessaires, parce qu'il y a le nombre de tâches, ça suppose un certain nombre d'heures, qui sont touchées. Donc c'est pour ça, c'est là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir.
Marie-Claire Carrerger.
Plusieurs petits points. Alors, on dit que l'histoire montre que parfois le progrès technologique crée de l'emploi. Non, pas parfois. Le progrès technologique, globalement, a créé de l'emploi. Au total, in the end, à la fin, pas nécessairement immédiatement dans une entreprise quand on remplace des ouvriers par une machine, mais il y a tout un tas de mécanismes et c'est important de les décrire parce que le débat se focalise uniquement sur les destructions d'emplois. Et franchement, il faut quand même raisonner ont gardés. Il y a effectivement des risques de destruction d'emplois parce qu'il y a des substitutions qui sont classiques et qui devraient peut-être s'amplifier, c'est ça la question. Mais ensuite, il y a des créations qui sont liées directement aux nouvelles technologies, les nouvelles machines, les nouveaux concepts informatiques, il faut les inventer, il faut les mettre en place, il faut les diffuser dans les entreprises. Donc il y a des créations d'emplois directes liées aux nouvelles technologies. C'est pas les plus importantes, on est d'accord. Ensuite, vous avez ce qui a été brièvement évoqué, ce qu'on appelle des mécanismes de compensation, qui sont plus à moyen terme, bien sûr, mais quand on produit plus avec la même quantité de capital et de travail, il y a des phénomènes, baisse des prix, etc. Si tout fonctionne bien, hein, il y a des phénomènes, baisse des prix, hausse des revenus et donc augmentation de la demande et nouveaux emplois. Par ailleurs, on distingue généralement ce qu'on appelle des innovations de procédés, où on remplace un homme par une machine, d'innovations de produits. Et quand on crée des nouveaux produits, ces nouveaux produits, à condition qu'ils ne se substituent pas à des anciens, eux aussi créent des nouveaux emplois. Alors évidemment, pour nous tous, c'est très difficile d'imaginer quels seront les produits de demain, quels seront les besoins de demain. Pour l'instant, ce qu'a montré l'histoire, c'est que les besoins de l'homme sont infinis.
Donc il n'y a pas de raison que ce qui s'est vérifié dans le passé ne se reproduise pas à l'avenir, c'est ce que vous nous dites ?
Ce que je dis seulement, parce que c'est un contexte d'incertitude, que ça n'est pas le scénario le plus probable à notre sens.
Dominique Méda ?
Moi, ce qui me gêne un peu dans tout ce débat, c'est le déterminisme technologique dont font montre beaucoup de ces acteurs. C'est-à-dire, on dit, à partir du moment où il y a une invention, elle va s'implanter. Et donc, on oublie complètement que ça ne s'implante pas comme ça, qu'il faut en même temps des innovations organisationnelles, qu'il faut une certaine acceptation des travailleurs. Bon, alors ils peuvent s'opposer et puis ne pas réussir, mais acceptation des consommateurs. Par exemple, sur le blog de Jean Gadret, un économiste, il raconte, il parle du rapport Nora Mink de 1978, où Nora Mink disait que, donc un rapport sur, qui nous disait que tous les emplois allaient être supprimés à cause de l'informatisation.
Nora et Mink, il y avait Alain Mink.
Absolument.
Et Nora, c'était. Ça ne se souvient plus.
Bon. Est-ce que c'était le Simon ou l'autre? Bref, bon. On appelle ça le rapport Nora. Donc tous les emplois allaient être supprimés, notamment dans les banques, etc. Bon, ça s'est pas du tout passé. Au contraire, il y a eu énormément de création d'emplois. Mais je pense que regardez les caissières, par exemple. On aurait pu depuis longtemps vraiment automatiser toutes les caisses. Et Leclerc lui-même, le créateur des supermarchés, dit qu'il ne l'a pas fait parce que les personnes âgées n'en ont pas envie. Maintenant, on nous dit que, et y compris dans le rapport du CEO, hein, que c'est le travail non qualifié qui va être le premier remis en cause. Et notamment, j'ai vu, on parle des assistantes maternelles, aide à domicile, etc. Mais est-ce que nos personnes âgées, est-ce que nos parents ont envie d'être traités par des robots? Je ne crois pas. Il y a toute cette dimension d'interaction sociale qui est extrêmement importante. Et puis, dernier point, je trouve que dans tout ce débat, on oublie radicalement la question écologique. Et là encore, je suis Gadret, c'est-à-dire que si on met la question écologique au premier plan, il va nous falloir beaucoup plus de travail.
Qu'est-ce que vous pensez, Raphaël Diogier, de ces questions de résistance sociale au progrès technologique? Il me semble que vous avez quand même une approche beaucoup plus enthousiaste par rapport à ce sujet, en nous annonçant dans votre livre, hein, que j'ai lu donc, la disparition prochaine. C'est normal quand même. La disparition des pilotes, des conducteurs de bus, de métro, des pilotes d'avion, enfin voilà, tout un tas de métiers qui sont voués à disparaître. Vous n'en faites pas d'ailleurs un élément de stress, ça vous dit au contraire, justement, il faut profiter de cette évolution-là pour changer de société, de passer à cette société post-industrielle. Mais j'ai l'impression que chez vous, on va dire, le progrès technologique avance à vitesse grand V et sans qu'on puisse vraiment s'y opposer. Mais peut-être ne faut-il pas s'y opposer.
Alors, premièrement, moi je distingue assez clairement ce que j'appelle le travail pur et dur, cette espèce de nécessité vitale de l'activité. J'ai pas dit qu'il y avait une limitation de l'activité, au contraire je pense qu'il y a un redéploiement de l'activité qui est bloqué par le système actuel. C'est pour ça que je suis favorable d'ailleurs au revenu d'existence de haut niveau pour libérer l'activité et non pas pour compenser l'idée qu'il n'y aurait plus d'activité parce qu'il n'y aurait plus d'emploi. L'emploi, c'est l'encadrement juridique exclusif de ce qu'on appelle du travail. Quand je dis exclusif, je veux dire qu'il est fondé sur un contrat exclusif qui fait que soit on a un emploi, soit on n'en a pas. Et il me semble que c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Mais je ferme la parenthèse et je réponds à votre question. c'est une question aussi de terme. Parce que si on parle à court terme, à moyen terme ou à long terme, on ne dit pas la même chose. Et il ne faut pas s'adapter de la même manière. Moi, je crois effectivement qu'à moyen et long terme, il y a un certain type de travail qui va être effectivement pris en charge par les machines, et qui, à un certain moment, la profession dans son ensemble, qui est accomplie par la suite des tâches représentant ce travail, va disparaître. Par exemple,
Et pas forcément, Raphaël Yogier, du travail peu qualifié. C'est peut-être là ce qui va vous distinguer avec Marie-Claire Carrergé et Dominique Ménage. C'est-à-dire que vous dites...
Tout à fait, pas forcément.
Il y a des tâches peu qualifiées, mais il y a aussi des tâches qui demandent une certaine expertise qui, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, vont pouvoir être prises en charge par les machines.
Alors moi, même si j'ai un peu de mal avec cette expression d'intelligence artificielle, je préfère distinguer automatisation de robotisation. En gros, ce que j'appelle robotisation, c'est ce que la plupart des gens appellent intelligence artificielle, en particulier quand qu'elle fonctionne avec le deep learning, donc qu'elle peut s'auto-apprendre, enfin s'auto-organiser et accroître sa capacité décisionnelle. Ben, je dirais que c'est la différence qu'il y a entre les années 80-90 et aujourd'hui. Dans les années 80-90, on disait encore, lorsque c'est vraiment trop complexe, on sait que un robot ou une machine va pouvoir être en moyenne plus efficace que les humains, mais par contre, si c'est vraiment trop complexe, le meilleur des humains sera meilleur que la machine. On le voit pour le jeu d'échecs. En fait, on s'est rendu compte dans les années 90 et dans les années 2000 que c'était pas vrai, que maintenant, c'est lorsqu'on sait que c'est vraiment trop complexe, c'est toujours la machine qui, à un moment donné, va finir par gagner. Et c'est le cas du pilotage en avion. Je vous donne un exemple du pilotage en avion. Alors, oui, il y a la question de la subjectivité et du fait de se dire 33 000 pieds sans pilote, je peux pas, je ne veux pas, ça serait horrible, etc., etc. Ce que j'éprouve moi aussi, plus parce que j'ai peur en avion. Mais nul ne saurait résister à la statistique lorsqu'à un moment ou à un autre, on se rendra compte que le 99% des accidents sont des accidents qui sont vraiment dus aux erreurs humaines. On préférera quand même un pilote automatique sophistiqué. D'autant plus que si on prend l'exemple ne serait-ce que d'aujourd'hui, c'est vrai que les deux opérations les plus difficiles sont effectuées par les pilotes qui prennent la main, et c'est seulement le pilotage automatique, il est surtout ensuite lorsqu'on est en montée, puis ensuite en croisière. Mais est-ce que vous saviez que lorsque, justement, en situation d'atterrissage, il y a trop de brouillard et que le brouillard est vraiment au ras de la piste et qu'on ne peut absolument rien voir, et bien à ce moment-là, c'est le pilotage automatique qui reprend la main, parce que lorsqu'on ne voit vraiment rien, il y a quand même plus de chances de mieux y arriver en pilotage automatique.
Alors, donc, je vais faire mon pilote automatique, si vous voulez bien. Je vais aussi reprendre la main dans la discussion. Non, juste Raphaël Yogier, voilà. Pour qu'on puisse aussi entendre nos deux autres invités.
Excusez-moi, j'ai un peu monopolisé la conversation.
Il n'y a pas de souci, mais on ne se voit pas. C'est pour ça toujours un petit peu plus compliqué distance. Marie-Claire Carrergé, sur cette question justement des tâches, alors plus ou moins complexes, qui sont amenées à disparaître. Dans le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi que vous prédisez, c'est pas exactement ce que vous dites. Vous dites en tout cas que les métiers qui seront les plus impactés, ce seront des métiers peu qualifiés, et qu'en revanche, là où il y a de la complexité, au contraire, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être enrichir justement ces activités-là.
Alors en fait, il y a un assez grand consensus, et qui se base pas sur la qualification en fait, hein, un assez grand consensus pour distinguer au sein des tâches routinières qui, on le conçoit aisément, peuvent être facilement automatisées, et des tâches non routinières, et plus encore celles qui font appel à de l'intelligence créative, à de l'intelligence sociale. Ça se répartit pas forcément en fonction de la qualification. Il y a des gens très qualifiés, j'en fais partie, qui fait de temps en temps dans la journée des choses assez routinières. Et je pense que à l'avenir, la partie routinière de mon activité va être facilement automatisable. Et on en voit des prolongements possibles dans la finance, dans la santé, dans voilà. Après. Nous, ce qu'on dit, parce qu'on a mené une enquête au COE à partir de la réalité de ce que les gens font, à partir de l'enquête de conditions de travail, on a essayé, à partir de déclarations des personnes, des salariés français, qui décrivent ce qu'ils font et la manière dont ils le font, on a essayé d'isoler les questions qui, justement, sont assez sensibles et qui permettent de voir dans quelle mesure telle ou telle personne fait dans la journée des choses qui nécessitent de l'interaction sociale, la capacité à résoudre des problèmes, qui font appel à de la perception, à de la dextérité, etc. avec des limites parce que l'enquête conditions de travail, elle a des faiblesses, elle appréhende mal les questions de dextérité, etc. D'où les certains métiers aberrants qui sortent dans la liste. Et en étudiant les réponses à cette enquête, on s'est aperçu que effectivement qu'il y a moins de 10% des emplois en France qui cumulent des vulnérabilités telles que leur existence pourrait être remise en cause. On dit même pas qu'ils seront supprimés, on dit qu'ils sont très vulnérables a priori, mais que l'essentiel de l'enjeu, parce que des créations et des destructions d'emplois, il y en a à peu près 10% chaque année dans l'économie. L'essentiel de l'enjeu, c'est la transformation des métiers. Et l'histoire des 20-30 dernières années montre que sur tous les métiers, il y a eu une complexification des métiers. Les gens ne font plus la même chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a une hybridation des tâches. Il y a de plus en plus de tâches non routinières, y compris dans des métiers qui étaient autrefois non routiniers.
Oui, mais Marie-Claire, si je vous dis que ces tâches non routinières, à l'avenir, elles pourront également être prises en charge par des processus d'automatisation. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé?
Bien sûr que des tâches non routinières pourront être substituables, probablement, mais à frontières technologiques connues aujourd'hui et avec ce qu'on anticipe, la majeure partie de l'impact en suppression possible d'emplois concernerait plutôt des emplois non qualifiés parce que c'est là que se concentrent les tâches les plus routinières aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que c'est si important, Dominique Méda, aujourd'hui d'avoir un diagnostic alors qu'il puisse être à peu près fiable et consensuel, disons, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, enfin les études scientifiques, vous évoquiez celle de 2013, il y a quand même un gap assez important entre ce qui se disait en 2013 et puis ce qui se dit aujourd'hui. On revient peut-être à davantage, disons, de prudence et de modération, oui, par rapport aux destructions d'emplois. Mais pourquoi est-ce que c'est important finalement de savoir ce qui va nous arriver à l'avenir? Est-ce que c'est un élément, on va dire, de décision des politiques publiques qui sont menées aujourd'hui en termes d'emploi? Est-ce que ça permet de justifier certaines politiques?
Bien sûr, mais je pense d'ailleurs qu'on en débat absolument pas assez. C'est-à-dire que cette idée consistant à savoir si on devrait plus ou moins automatiser, c'est-à-dire accepter plus ou moins l'automatisation, elle devrait faire l'objet d'un vaste débat public. C'est absolument invraisemblable qu'on se laisse, je dirais d'une certaine manière, qu'on se laisse faire comme ça par les industries, par les ingénieurs. Et alors, j'ai envie de prendre une position un petit peu de synthèse entre les deux, pour renouer avec mes anciennes amours, hein, parce que moi, en 95, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Le travail, une valeur en voie de disparition », alors où je n'annonçais pas du tout la disparition du travail, mais où je disais qu'il était souhaitable de sortir des sociétés fondées sur le travail, c'est-à-dire de restreindre, de réduire la place qu'occupait le travail, à la fois dans nos vies individuelles et dans nos vies sociales, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'autres choses très importantes à faire. Mais donc, il me semble que toute la question, c'est de savoir comment on va sortir progressivement de ces sociétés fondées sur le travail. Les modalités me semblent hyper importantes. Je ne nous vois pas sortir brutalement par l'enchantement de l'automatisation. Il me semble qu'il faut travailler tout ça, justement l'accompagner. Et notamment, c'est pour ça que moi je suis une fervente partisane de la réduction du temps de travail. Parce que je crois que la société a un effort perpétuel à faire sur elle-même pour justement accommoder ces disparitions d'emplois et répartir en permanence sur l'ensemble de la population en âge de travailler ces fameux emplois, vous voyez.
Quand vous dites, Dominique Méda, qu'il n'y a pas de débat sur finalement ce que l'on fait de cette automatisation, de savoir si on l'accepte ou si on s'y oppose, ça veut dire que vous considérez qu'on peut décider, une société peut décider collectivement de s'opposer à certaines dimensions du progrès technologique?
Oui, bien sûr. Par exemple, bon, Benoît Hamon a mis l'idée de taxe sur les robots dans le débat, mais je pense qu'on pourrait au moins, par exemple, faire payer des impôts à toutes ces sociétés qui non seulement suppriment des emplois, mais qui déshumanisent le travail également. Il y a eu beaucoup d'ouvrages là-dessus pour montrer comment le travail était déshumanisé. Et puis, je voulais insister juste sur un dernier point. Quand Raphaël Gyoji dit que soit on a un emploi, soit on n'en a pas. Mais justement, non, c'est pas ça. C'est soit on a 0 heure, soit on travaille 5 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, un emploi de plus ou moins bonne qualité. Et il me semble exemple, que par exemple, à comparer ce qui se passe en France et ce qui se passe en Allemagne, c'est très intéressant. C'est-à-dire que en Allemagne, l'emploi est beaucoup plus fragmenté. On a beaucoup plus de petits temps partiels mal payés, un petit peu dégoûtant quand même, hein, notamment dans les services et pris en charge par les femmes, versus, parce qu'on a fait les 35 heures en France, une durée normale du temps de travail, un peu plus courte qu'en Allemagne, mais plus longue que ces petits temps partiels dégoûtants. Donc, on peut, vous voyez, les politiques publiques, elles peuvent complètement quand même façonner ça. Et l'Allemagne et la France ont façonné des politiques du temps de travail très différentes.
Enfin, elles peuvent les façonner dans une certaine limite, si j'ai bien lu le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi. Il y a notamment cette phrase, Marie-Claire Carrère-Gé, une économie ne peut s'abstraire ni même se tenir provisoirement à l'écart des progrès technologiques au risque d'un décrochage. Le progrès technologique n'est pas une option. Donc, ce que j'en tire moi comme conclusion en lisant ce genre de phrase, c'est que forcément, les politiques publiques qui sont menées doivent obligatoirement accompagner l'automatisation et la robotisation, mais ne pas vous chercher à s'y opposer.
Pas par principe, en tout cas. C'est le seul sens de cette phrase. Sinon, je partage parfaitement l'avis de Dominique Méda. Non seulement on peut s'interroger sur les questions de régulation, mais il y a bigrement intérêt à le faire. Il y a intérêt à s'interroger sur le droit de la concurrence, sur comment on est en train de donner toutes nos données en France et dans plein de pays aux GAFA. Il y a là, on doit dire quel montant d'impôts on entend récupérer des GAFA. On doit s'interroger sur le partage de la valeur ajoutée, parce que la localisation, le partage de la valeur ajoutée dans un contexte de progrès technologique, il n'est pas forcément le même. Il y a plein de questions éthiques, de responsabilité. On parle des voitures sans chauffeur, mais qui va être responsable si j'ai une voiture sans chauffeur? Bref, non seulement c'est une possibilité de s'interroger sur la régulation, mais c'est un devoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette attitude, considérer que le progrès technologique, c'est un fantasme, comme ça, une vague qui déferle. Et puis, quand on dit que ce n'est pas une option au COE, on dit simplement que dans un contexte où la France est par exemple faiblement robotisée en France, le fait de par principe refuser l'automatisation est absurde parce que si on est dans une économie ouverte, on perd en compétitivité et on voit que l'Allemagne, le Japon, qui sont beaucoup plus automatisés que nous dans l'industrie, ont un taux de chômage bien inférieur au nôtre. Mais pour venir à votre question sur pourquoi c'est important d'avoir un diagnostic partagé? Moi, je préside un organisme qui justement réunit tous les acteurs du travail, l'État, les partenaires sociaux, etc. Et c'est pour ça qu'on a voulu saisir la question. Parce que quand vous arrivez vous avez une étude qui vous dit 50% des emplois à assez brève échéance, vont voir leur contenu transformé. Il y a un sacré travail d'anticipation auquel l'État est pas avec lequel l'État est pas familier, surtout quand on est dans un univers d'incertitude qui a des scénarios très très différents. Mais les branches professionnelles aussi doivent s'en emparer. Il y a des enjeux colossaux en matière d'éducation, de gestion des transitions professionnelles, de management dans les entreprises, d'organisation du travail. Il y a des enjeux colossaux et des décisions qui doivent être prises.
Avant de repasser la parole à Raphaël Yogier, je rappelle juste, parce qu'on me le demande, que les GAFA sont les quatre grands géants de l'Internet, Google, Amazon, Facebook et Apple. Raphaël Yogier.
Oui, alors moi, je voudrais juste dire deux, trois petites choses. La première, c'est que il n'y a plus un consensus, en tout cas un consensus absolu aujourd'hui sur la distinction qui serait très claire entre tâches automatisables et tâches non automatisables. Hein, parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'il s'agit de réagir, y compris à des situations qui peuvent être des situations justement qu'on peut appeler complexes, par exemple, je prenais l'exemple de l'avion parce que c'est la météorologie, il n'y a rien de plus complexe, eh bien, les robots actuels sont aujourd'hui en train de challenger l'homme. Donc la seule différence qu'il y aurait, c'est que chez l'humain, effectivement, c'est la notion de créativité, mais la créativité, c'est la capacité non pas à répondre à un problème, mais à créer une situation et à créer, par exemple, un jeu pour ensuite poser des problèmes qui ne se posent pas encore. Mais ça, c'est un débat qui est effectivement lui-même en tant que tel assez complexe. En tout cas, il y a une chose qui me semble très intéressante. D'ailleurs, ce qu'a dit en partie Dominique Méda, elle souligne qu'il y a une fragmentation, en tout cas un risque de fragmentation du travail. Et c'est clair que ce risque de fragmentation du travail, il existe, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui seront, en toute hypothèse, automatisées. Et oui, il va y avoir une recomposition. Je suis d'ailleurs d'accord aussi avec ce qu'a dit l'autre intervenante. Il va y avoir une recomposition. Sauf que cette recomposition, aujourd'hui, de l'activité, elle va se faire dans des conditions qui sont justement les conditions de cette fragmentation. Ce que je veux dire par là, c'est que jadis, lorsqu'on parlait de travail, on parlait d'un temps de travail donné dans un espace relativement stable, c'est-à-dire par exemple l'espace de l'usine, l'espace du bureau, un espace stable. Or, aujourd'hui, il y a une fragmentation de l'espace-temps stable du travail, surtout dans ces nouvelles professions. C'est-à-dire on peut travailler chez soi, revenir sur son iPhone, faire ceci, cela, etc. Résultat, jadis, et j'étais tout à fait d'accord jusqu'à peu de temps finalement, avec l'idée que la réduction du temps de travail, c'est la solution face à cette situation. Mais je ne crois pas aujourd'hui que ça soit suffisant. Je ne crois pas que ça soit suffisant parce que à un moment donné, on va se trouver face à cette idée que il y a le contrat de travail, qui est un contrat spécifique, qui nous oblige soit à avoir un travail, soit ne pas en avoir. Et en même temps, on ne peut pas laisser les individus sans travail ou sans revenu. Donc, il faut maintenir quand même une certaine sécurité. Donc, je crois que c'est pour ça que le véritable esprit dans lequel peut être conçu le revenu d'existence de haut niveau, je dis bien de haut niveau, c'est important, c'est pas un revenu d'existence à 300 euros juste pour rattraper les gens à la dernière minute et qui serait une occasion d'éliminer les autres protections, les autres filets de protection. Le revenu
d'existence, vous allez jusqu'à 1800 euros par mois, je crois, à peu près, hein, c'est
ça. Tout à fait. Il permettrait quoi? Entre 1000 et 1800 euros, il permettrait quoi? Il permettrait justement, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi parfois revenu de base, d'être la base à la construction d'une carrière qui, si on a que ça, si on a que ce revenu, effectivement, elle devient fragmentée, c'est l'horreur, c'est la flexibilité permanente dans tout ce qu'il y a de plus négatif, mais là, ça devient au contraire une chance de redéployer son activité, soit dans des activités qui sont humanitaires, qui rapportent pas forcément, soit qui rapportent, soit qui sont devenues plus payantes parce que justement, peu de gens veulent le faire et donc c'est pas forcément très qualifié et il y a pas de robots pour le faire et ben donc c'est fait, mais c'est fait en étant payé plus cher et en devant le faire moins longtemps, etc. Donc ça permettrait de redéployer entièrement l'activité en s'adaptant justement à cette espèce de recomposition qui est à minima nécessaire. Je crois que vos deux autres invités le reconnaissent.
Et elle piève d'impatience de vous répondre, Dominique Méda. C'est vrai que si on fait le constat de cette grande fragmentation du travail, ça semble compliqué d'accompagner cette fragmentation par une réduction du temps de travail. C'est-à-dire qu'elle...
J'allais dire au contraire. C'est-à-dire, ce qui me gêne dans la proposition de Raphaël Liogé, c'est le tout ou rien. Et on va complètement délier revenus et travail. Alors que ce qui me semble problématique, c'est que ça veut dire qu'on va accepter la mécanique de cette révolution technologique qui va mettre de côté radicalement des gens et laisser d'autres personnes dans l'emploi. Et ces autres personnes dans l'emploi, évidemment, c'est le gagnant qui prend tout, hein, qui aura toute la mise. Et je crois que ce faisant, la société s'exonère du devoir justement de répartir perpétuellement l'emploi sur l'ensemble des personnes. Vous voyez, moins d'emplois, donc peut-être un jour, peut-être 20 heures, ce que disait Keynes, hein, 20 heures chacun, mais chacun en a. Et à côté, chacun peut faire d'autres choses.
C'est une logique d'ailleurs qui pourrait fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire si les besoins nécessitent d'augmenter le temps de travail,
oui, bien
on pourrait
sûr.
En faire une forme de variable d'ajustement.
Tout à fait. Et vous voyez là, on relâche, alors là, je suis entièrement d'accord, hein, on relâche le lien entre revenu et emploi, mais on ne le coupe pas complètement. D'ailleurs, il est déjà coupé complètement avec la protection sociale, etc. Mais on ne le coupe pas complètement parce que ça nous oblige justement à ne pas laisser des gens sur le bas-côté. Et ça nous oblige à les former, à les requalifier perpétuellement.
Marie-Claire Carrère-Gé, est-ce que les constats que vous faites et que vous avez faits à travers ce rapport sur l'impact de l'automatisation et de la numérisation sur l'emploi rendent, d'après vous, pertinente la question aujourd'hui de la réduction du temps de travail, question qui, il faut bien le dire, n'est pas extrêmement présente dans cette période si importante politiquement?
Enfin, ça renvoie quand même globalement à la question du chômage technologique, c'est-à-dire que À chaque révolution industrielle, ça s'est produit. Il y a eu des débats. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et surtout, on ne sait pas quand on va gagner si on gagne. Chaque vague de progrès technologique a été l'occasion de grandes frayeurs. Et dans le débat économique, ça s'est vu. Dominique Méda citait Keynes, et effectivement, Keynes, mais c'était il y a un bout de temps, a dit dès que la vague actuelle de progrès technologique sera déployée, voilà, il y aura du chômage technologique, moins d'heures de travail. Depuis que Keynes l'a dit, je pense qu'il y a un sacré nombre d'heures de travail qui ont été fournies. Je dis pas que le monde est immuable, hein. Attention, je dis simplement, prenons garde à ne pas, dans un contexte de grande incertitude où on voit évidemment ce qui est détruit ou ce qui peut être détruit, on le voit ça assez clairement. Après, on met la borne ici ou là, mais enfin, on voit que il y a beaucoup de tâches qui pourront être faites autrement. Mais dire qu'il n'y aura pas de nouveaux besoins est en contradiction avec les évolutions, y compris les plus récentes. Je prends l'exemple des caisses, des distributeurs de billets dans les banques. Les distributeurs de billets dans les banques n'ont pas supprimé les conseillers dans les agences. Simplement, les conseillers, ils distribuent plus de billets. Ils font autre chose et d'ailleurs, possiblement des choses plus intéressantes parce qu'en règle générale quand
plus
même...
Plus cher manifestement, progrès... si on en juge par les frais bancaires.
Voilà. Mais c'est peut-être le prix du guichet plus que celui du conseiller. Pour l'instant, le progrès technologique globalement s'est traduit par des conditions de travail moins pénible, globalement. Historiquement, je pense qu'il n'y a pas de débat. Des conditions de travail un peu moins pénibles et puis des revenus supérieurs et plus d'emplois. Mais je dis pas que ça va arriver nécessairement. Ça n'arrive que si on se débrouille pour que effectivement en termes de protection des salariés, en termes d'anticipation des besoins de compétences, en termes de répartition de l'activité, etc., si on prend les bonnes décisions. Mais je dis simplement qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que certaines tâches vont être automatisées qu'on va se rouler les pouces le reste du temps. On va bien trouver d'autres trucs à faire. Hein.
Dominique Méda.
Mais c'est vrai, alors pas se rouler les pouces, mais c'est vrai qu'on observe aujourd'hui, moi j'ai fait pas mal d'enquêtes sur les attentes que les personnes mettent sur le travail, il y a d'immenses aspirations, notamment des plus jeunes, et depuis quand même que les femmes travaillent beaucoup, d'immenses aspirations à ce que le travail laisse un peu de place pour s'occuper un peu de ses enfants, pour des choses comme ça. Donc peut-être que j'ai tort d'employer cette expression de réduction du temps de travail. D'ailleurs, c'est pas ça, c'est partager autrement le travail, parce que ça serait une réduction pour certains, mais ça serait une augmentation pour d'autres, pour tous ceux qui sont dans des tout petits temps partiels subis et qui ne leur permettent pas de vivre.
Donc l'enjeu, en tout cas à court terme, pour vous, Dominique Méda, ça serait quoi? Ça serait peut-être d'ailleurs d'assurer une forme de protection à ceux qui vont quand même subir peut-être le plus durement ces processus d'automatisation, oui, qui ne bouleversent pas l'ensemble de,
oui, voilà, du travail. C'est d'accompagner à la fois la révolution technologique, mais aussi et surtout la reconversion écologique, de l'accompagner pour essayer de répartir la casse, j'allais dire, et pour essayer que ça se passe bien et qu'on arrête de laisser des gens sur le côté, que perpétuellement on les ramène dans la société et dans l'emploi.
Ça suppose d'ailleurs peut-être de n'avoir pas qu'une seule approche uniquement nationale, mais de penser
absolument,
de manière un petit peu plus
absolument,
globale ces questions, ce qui pour l'heure ne semble pas être totalement d'actualité. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marie-Claire Carrergé, on peut trouver très facilement sur Internet,
le rapport
automatisation, numérisation et emploi du Conseil d'orientation pour l'emploi. Dominique Méda, je renvoie à votre dernier ouvrage, Il faut réduire le temps de travail, que vous avez écrit avec Pierre Laroutourou. Einstein avait raison, ça c'est le titre principal aux éditions de l'Atelier. Puis Raphaël Yogier, Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel, publié au Lien qui libère. Raphaël Yogier qui se trouvait dans les studios de France Bleu Aix en Provence. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, émission réalisée par Viviane Noël. Avec à la prise de son ce soir, Alexandre Dang. Demain, la question à partir de 18h20 sera la suivante. Est-ce que le commerce, c'est la guerre? Il sera question de libéralisme, de protectionnisme et plus largement justement de compétition commerciale.